Dossier du jour avec Granit et Marbre Mourier, plan de cuisine et salle de bain. Fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr.
Bonjour à tous et à toutes. Nous allons préférer la cantine aujourd'hui. Oui, mais pour manger quoi? La restauration collective hier, celle d'aujourd'hui, l'approvisionnement, le type de menu. Tous les différents acteurs de cette belle chaîne sont réunis autour des micros de France Bleu Creuse. Nous avons avec nous pour la direction départementale de la cohésion sociale et protection des populations, Pascale Gély Dunoyer, directrice adjointe, Martine Lambert, chef technicien responsable des inspections, restauration collective, Louis Verdouin, maraîcher, et pas de cantine sans cantinière. Donc nous avons également avec nous Véronique Bonneau, la cantinière de Champagne. Vos questions, vos commentaires, c'est maintenant à ce numéro.
05 55 52 37 38.
Pascale Gély Dunoyer, Martine Lambert, Louis Verdouin et Véronique au bout du fil. Bonjour à tous.
Bonjour.
Tout va bien, Véronique? Vous êtes où là? Dans la cantine déjà, devant vos fourneaux?
Tout à fait, je suis devant mes fourneaux, je vous attendais.
D'accord, ben nous sommes à l'heure, hein, Véronique. Vous faites combien, vous faites déjeuner combien d'enfants chaque jour, Véronique?
Alors, quand ils sont tous là, on est 75.
Et vous êtes toute seule à la cantine?
Je suis toute seule pour la cuisine. De 8h à midi, je cuisine seule.
Alors, parlez-nous des menus que vous proposez. Déjà, expliquez-nous comment ça fonctionne dans une cantine. C'est vous, cantinière, qui décidez du menu ou comment ça se passe?
Alors, ça dépend des cantines, mais bon, chez moi, c'est moi qui fais les menus. Je fais mes commandes. Je fais mon plan nutrition santé parce que bon, il faut suivre les règles. Et puis, je fais mes prix de revient. Voilà, j'établis mes menus sur 20 jours.
Ouais.
Voilà. Il faut y inclure dedans tous mes producteurs et puis tout ce qui est obligatoire.
Alors justement, Véronique, vous me tendez la perche. Vous vous fournissez où?
Alors, j'ai déjà des producteurs locaux. Et pour ce que je ne trouve pas, j'ai forcément recours à la grande distribution, malheureusement. Donc, si je peux les citer, je les cite.
Allez-y, faites-vous plaisir, alors, Véronique.
Eh bien, donc, moi, j'ai mon maraîcher qui est Louis, qui est à côté de vous.
Qui est à ma droite, oui.
Voilà. J'ai Christian Jouandeau, Vincent Rimaret et le boucher Didier Tellet à Massa, qui me fournissent en viande locale. Donc, Christian Jouandeau, ça sera uniquement du bœuf et Vincent Rimaret uniquement du porc. Et Didier Tellet va me fournir le reste. Après, j'ai les yaourts bio et les fromages bio que me fournit Éric Robin Lamotte à Nouzrine. Et je terminerai par Katia Bouzon qui me fournit les lentilles, la farine et les œufs bio. Et puis notre boulanger, bien sûr, parce que notre boulanger, c'est quand même quelqu'un de local.
Je sens que je vais aller déjeuner à la cantine de Champagne, moi. Dites-moi, Véronique, comment ça se passe? On va demander également à Louis, comment ça se passe avec les producteurs? Si, par exemple, vous avez besoin d'un article ou d'un autre, mais que le producteur n'a pas trop cet article-là ce jour-là, comment ça se passe?
Alors, là, j'ai pas de chance, je commence l'année, j'ai un producteur de légumes qui m'a lâché. Donc, je pense beaucoup à Louis et j'espère qu'il va me sauver. Mais je sais que l'été a été très rude. Donc, j'ai quand même à Aubusson un très bon marchand de légumes qui je cite, c'est Caliprime aussi. Voilà. Donc, j'ai recours avec monsieur Cisterne quand j'ai pas Louis. Et puis sinon, on peut toujours échanger un légume vert pour un légume vert. Si c'est du chou-fleur et qu'il n'y a pas de chou-fleur, on peut peut-être faire un autre chou.
Oui.
Voilà. À partir du moment où on reste dans les mêmes catégories, il n'y a aucun problème.
Véronique, si je comprends bien, vous suivez également un petit peu les légumes ou autres de saison.
Ah ben, on est bien obligé de toute façon. Voilà. Oui.
Louis,
on ne prend pas des tomates à Noël. Hein.
Voilà. Ni le melon au mois de décembre.
Ah non.
Louis, comment c'est intéressant de travailler? Alors on va rester sur l'exemple de la cantine de Champagne.
Oui. Intéressant, oui. Malgré que ça représente quand même une tout petite partie de notre chiffre d'affaires.
Ouais.
Parce que le plus gros problème qu'on rencontre avec les fournitures aux cantines, c'est justement la quantité de commandes. Donc la quantité du même produit à la commande, plus que les écoles sont grandes, plus que c'est difficile pour nous pour s'adapter. En plus, on dépend beaucoup des allées climatiques,
ouais, aléatoires climatiques.
On a certaines cultures qui ont de très courtes durées. Donc il faut que le cantinière s'adapte plutôt à la culture que moi à la cantine, parce que je peux pas faire autrement. Tout ça fait que voilà, c'est pas évident et je crains que c'est pour ça que ça se développe pas assez à mon goût personnellement.
Ouais.
Mais il y a des difficultés à surmonter dans le temps, parce que ça fait quand même depuis 2013 que j'ai fourni des écoles, qu'on n'a pas vraiment encore trouvé les solutions pour quoi.
On va en parler avec les représentantes de la direction départementale cohésion sociale et protection des populations. Vous fournissez combien d'écoles actuellement, Louis ?
Alors, il y a 5 écoles primaires.
5 écoles.
Voilà.
Et est-ce que vous allez, parce qu'elle vous a fait un clin d'œil, Véronique, tout à l'heure, vous allez pouvoir la sauver, là, Véronique ? Elle a un souci.
je ne peux pas à 100% positif répondre à la question. On fait notre mieux. On a perdu beaucoup de culture durant cet été avec les chaleurs. On est en train de se préparer pour combler un peu le trou qu'on va avoir. On a de la chance depuis le début de l'année d'avoir plus de serres disponibles. Donc on peut certaines cultures on peut faire beaucoup plus. Donc en salade par exemple, il y a beaucoup de crudités qu'on peut faire en hiver.
D'accord.
Et il y en a certaines cultures qu'on faisait pas à l'automne, qu'on peut faire à l'automne mais qu'on faisait pas parce que on n'avait pas besoin et qu'on plante donc maintenant ou on sème maintenant pour combler ces genres de trous quoi. Si je cite un exemple, on va être très courte en radis d'hiver. Alors, pour remplacer, pour combler ces trous-là, on fait des radis normales, de la radis ronde, qui pousse aussi bien à l'automne qu'au printemps. Et donc, avec ce genre de culture-là, on essayait donc de combler les trous. Mais encore une fois, je ne peux pas à 100% garantir que je suis capable de fournir durant tout l'hiver. Quoi.
Véronique, qu'est-ce qu'on mange à midi à la cantine ?
Alors aujourd'hui on mange du concombre qui vient de chez Louis, voilà, du concombre bulgare à la menthe. Après nous mangeons du rôti de porc qui vient du GAEC Rimaré Meunier. Après on mange une ratatouille totale de chez Louis, voilà. Et en dessert, je les gâte, aujourd'hui c'est une petite glace, voilà.
Oui mais c'est vendredi en même temps.
Ben voilà, et puis bon, ils n'en ont plus pour la rentrée, donc j'en mets aujourd'hui.
Véronique, ils sont pas difficiles pour manger les enfants ?
Écoutez, moi depuis 5 ou 6 ans que je fais ça, j'ai pas eu de problème. Au début, bien sûr, ça a été un petit peu dur de changer. Les carottes, bon, bien sûr, celles qu'on a chez nos maraîchers ont beaucoup plus de goût, voilà. Et forcément que c'est souvent quand on arrive à la fin des périodes de carottes et qu'on repasse sur de la carotte, de grande distribution, c'est de l'eau, hein, et puis ça ne se conserve pas, c'est le problème. Donc moi, mes enfants, maintenant qu'ils sont habitués, le remarquent. Et j'ai des enfants, moi je suis très contente, parce que depuis 2012, ils ont fait toute leur scolarité à Champagnat en mangeant pratiquement que des circuits courts. Donc
bravo.
Là, je suis ravie de ça, parce que ça contribue quand même à leur santé, et puis j'ai pas trop envie d'être responsable de leur futur problème.
Mes enfants, ma cantine, vous aimez votre métier, Véronique, hein?
Oui, assez.
J'avais promis de vous libérer suffisamment tôt parce que je voudrais pas que vous soyez en retard pour le déjeuner des enfants. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps, Véronique, et bravo pour la qualité de votre travail.
Je vous remercie. Je peux passer un petit coucou ?
Bien sûr.
Alors, je passe un coucou à toutes mes petites cantinières qui sont autour de chez moi. Voilà, elles se reconnaîtront. Et puis, un petit coucou à Hervé Rochignat qui s'occupe du CS Restauration Collective, ouvert aux apprentis, aux adultes, à A1, au CFPPA. Voilà.
Le message est passé, Véronique. Encore merci. Bon courage et à bientôt.
Allez, au revoir.
À bientôt. Et dans quelques instants, c'est Pascal Gilly Dunoyer, Martine Lambert pour la direction départementale cohésion sociale et protection des populations qui vous expliqueront à vous, parents, grands-parents, comment ça se passe en restauration collective, notamment du côté des contrôles. Nous avions Véronique, on la sent sûre d'elle dans ses préparations. Après, il y a beaucoup de questions d'hygiène et autres. Vous n'hésitez pas, vous souhaitez soulever un souci. Si vous avez une question à poser, c'est au 05 55 52 37 38. Nos invités sont venus aussi échanger avec vous. À tout de suite.
La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bâiller. C'était la dernière séquence. C'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer, mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. Il finira en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance. C'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. C'est la dernière séquence, et le rideau sur l'écran est tombé.
Dernière séance, c'est dit Mitchell.
France Bleu Creuse, le dossier du jour.
Manger à la cantine, oui, mais ça ne veut pas dire manger n'importe quoi. Nous en parlons ce matin avec nos invités. Nous avions avec nous, il y a quelques minutes, Véronique, la cantinière de Champagnat, et en direct dans notre studio, Louis, qui est maraîcher, qui fournit des écoles, Pascal Gilly Dunoyer, directrice adjointe pour la direction départementale de la cohésion sociale, protection des populations, et Martine Lambert, chef technicien, responsable des inspections en restaurant, en restauration collective. Martine, je suppose que d'écouter les propos de Véronique tout à l'heure, on a envie de dire, mais elle a tout bon, elle a tout compris, faire travailler, avoir des produits en circuit court, faire travailler des producteurs locaux.
Oui, oui. Véronique est un exemple parce qu'elle s'est beaucoup investie dans son métier et puis dans la qualité de ce qu'elle sert aux enfants. Et elle fait vraiment des produits maison. Elle a une cantine qui n'est pas, on peut dire, totalement aux normes, mais elle travaille quand même dans de bonnes conditions d'hygiène, parce qu'elle, disons, elle sectorise ses préparations dans l'espace.
Globalement, les cantines en Creuse, parce que vous les connaissez bien pour le coup, puisque vous les inspectez.
Je les inspecte depuis 1989. J'ai commencé en 1989. Et en 89, ça a été un peu... C'est un secteur qui était délaissé. Et puis donc, il y a eu un intérêt qui s'est développé. Disons, le ministère de l'Agriculture, la DGL, a porté un peu son attention sur ce point. Et donc, quand j'ai commencé en 89, j'ai trouvé des cantines, on va dire, rustiques. Deux cantines sans...
Je sens que vous êtes gentille, là, sur ce coup-là, avec
rustique. Oui, deux cantines sans frigo, par exemple, avec des revêtements... du parquet avec des trous parce qu'il y avait des souris qui passaient dans certaines cantines, qui passaient de la cave.
Martine, pitié.
Ben oui, mais il faut le dire. Il y avait aussi des revêtements qui étaient dégradés, des peintures écaillées, des moisissures à certains endroits. C'était quand même des cuisinières à bois, des équipements très sommaires, par exemple table en bois avec des toiles cirées en mauvais état. Il y avait un gros travail de fond à faire. Et puis, ben, j'ai commencé en 89 et les cantines se sont toutes refaites, au moins les cantines primaires scolaires. Et après, j'ai attaqué en 1992 sur l'autre restauration, les grosses restaurations collectives, les lycées, les collèges, les hôpitaux, les maisons de retraite.
J'ai sous les yeux la liste des points que vous vérifiez lors de vos inspections. J'ai envie de dire, ça rigole pas.
Ben non, c'est bien défini. Hein. C'est une grille qui a été établie en fonction des risques. Hein. C'est une grille nationale qui a été mise en place par la DGAL. Et donc, toutes les restaurations collectives de France sont inspectées.
Relève de ce point-là.
Oui, on est forcé, à chaque fois qu'on fait une inspection, de regarder tous ces points. Alors ça va des locaux, des équipements qui sont obligatoires, savoir s'ils sont présents ou pas, de la qualité des conditions de conservation des matières premières, les circuits d'approvisionnement, le nettoyage à désinfection, les autocontrôles, la conservation du repas témoin, hein, ça c'est vraiment le juge de paix de la cantinière. La traçabilité qui est de plus en plus importante hein, en cas de rappel de produits défectueux. Et puis vérifier le fonctionnement. Quand j'y vais en période d'activité pour voir un peu s'il y a des erreurs de contamination croisée, par exemple. Comment sont rangés les produits dans les frigos, si c'est bien rangé, ou s'il n'y a qu'un seul frigo, si tout est bien protégé pour pas que ces fameuses contaminations croisées.
Pascal Gilly Dunoyer, nous avons pu l'écouter dans les propos de Véronique cantinière. Elle est arrivée à faire travailler des producteurs locaux, à travailler en circuit court. Où en sommes-nous en Creuse par rapport à ces circuits courts? On est bon, on peut mieux faire, on en est où?
On peut mieux faire.
D'accord.
Je pense que la Creuse a une chance, elle a une image de qualité de vie, de qualité de production. Elle n'a pas une image, je dirais, d'industrie ou d'agriculture intensive. Donc, il faut que la Creuse rebondisse, là, sur en particulier sur ce qui va arriver en lien avec la loi alimentation, qui va demander à ce que 50% des produits servis en restauration collective soient des produits locaux, des produits issus de l'agriculture biologique ou sous signe de qualité. Et donc là, la Creuse et les établissements de restauration collective ont toutes leurs chances et doivent saisir cette opportunité.
Ensuite, il peut y avoir encore certains freins, je suppose. Louis nous a expliqué tout à l'heure, il peut fournir jusqu'à ce qu'il puisse fournir. Nous savons que nos producteurs locaux n'ont pas toujours des immenses surfaces et est-ce qu'on tend vers un regroupement, par exemple, de producteurs locaux qui pourraient peut-être mieux gérer au niveau des livraisons de ces cantines ou pas?
Alors, Cette organisation ne relève pas nécessairement de l'État. Mmh. L'État peut accompagner par rapport à l'organisation de ces regroupements. Effectivement, aujourd'hui, on comprend aisément que par rapport à des productions, ce que disait Louis, il y a des aléas climatiques. Et le système d'achat pour certains établissements, peut-être pas pour Véronique, puisqu'elle doit être en dessous des seuils déjà de marché public, donc elle a une certaine souplesse, elle n'est pas contrainte par ce dispositif-là. Par contre, pour d'autres, ils ont ces contraintes-là. Et aujourd'hui, la réglementation peut permettre d'avoir des approvisionnements beaucoup plus adaptés. Il y a des caractéristiques des approvisionnements, des caractéristiques de produits. On peut parler aussi d'économie sociale et solidaire. On peut faire intervenir la distance, etc. Et là, il y a un travail justement en Creuse, peut-être, à faire avec les responsables de restaurants collectifs pour les amener à utiliser ce que la réglementation permet.
Louis, vous seriez plutôt pour
Absolument.
Un regroupement, travailler peut-être un peu plus entre vous, entre producteurs.
Ouais, absolument. Quand moi j'ai commencé donc à fournir donc les cantines scolaires en 2013, c'était suite à l'université rurale du pays de Marchand-Combray qui malheureusement n'existe plus. On a eu au moins une année de réunion régulièrement pour parler du sujet. Et à l'époque, la proposition de après avoir vu le difficultés pour mettre donc la fourniture de cantines scolaires en place. Ça a été dit déjà que est-ce que ça peut être intéressant pour faire une plateforme quelconque pour regrouper les producteurs. Et à l'époque, j'étais peut-être pas trop pour non plus. Parce que je savais pas trop ce que ça voulait dire. Alors par contre, avec l'expérience que j'ai depuis, je pense que si on veut faire fournir les cantines scolaires, alors ça sera absolument une nécessité. Moi tout seul, je suis pas du tout capable de fournir en grosse quantité des écoles. Ensemble, on sera capable de le faire beaucoup plus. Faut-il encore que les producteurs s'attendent entre eux ou qu'il y a un organisme qui regroupent tous ensemble. Et
pourquoi ils ne s'entendent pas entre eux, les producteurs ?
Il faut dire que moi, je ne produis pas que seulement pour les écoles. Je suis aussi au marché. Alors, avec le fleurissement des petits producteurs qui explosent en ce moment, 1000 hectares par-ci, 1000 hectares par-là, des gens qui, à eux, ne sont jamais capables de fournir une école non plus. Mais peut-être on peut faire quelque chose. Donc on est en fait, voilà, il y a aussi une concurrence, si vous voulez. Toute seule, on ne sera pas capable de fournir des cantines scolaires. Ensemble, on sera capable de le faire.
Et vous, qu'en pensez quoi ? Ces producteurs locaux devraient-ils se rassembler un peu plus pour fournir plus les cantines scolaires ? Vous y êtes plutôt favorable ? Vous êtes vous-même producteur ? Vous aimeriez servir les cantines ou non ? Pas du tout. Chacun peut s'exprimer.
05 55 52 37 38.
Pascale Gilly Dunoyer, directrice adjointe pour la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Dans les freins, donc, il resterait ce travail de rassemblement, on va dire, des producteurs locaux, revoir peut-être du côté des marchés publics aussi, alors ?
Oui, là, c'est une piste que l'on peut étudier. Alors, c'est pas très simple, puisque les marchés publics relèvent de réglementations aussi européennes. Mais bon, la France s'engage, dans le cas justement de cette loi alimentation dont on parlait tout à l'heure, pour favoriser cette transition agricole avec faire de lance la restauration collective. Donc il y a des pistes. Puis je voulais dire aussi qu'il existe quand même des structures. On a agri local, la structure donc qui est portée par les conseils départementaux et qui permet de réunir des producteurs et auxquels des restaurants collectifs peuvent se connecter pour avoir des produits. Donc il y a des choses qui existent et qu'il faut peut-être développer. En Creuse, on avait également la charte des filières viande et lait en Creuse, qui est portée par les chambres consulaires et différents organismes creusois. Donc, il y a pas mal de choses qui existent. Il faut par contre les fédérer, les réunir, et comme disait monsieur, peut-être travailler à des plateformes, à une organisation, à une meilleure organisation.
On va se retrouver dans un instant. Vanessa Paradis, Divine Idylle.
Le dossier du jour avec Granit et Marbre Mourier. Plan de cuisine et salle de bain. Fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr.
La cantine scolaire aujourd'hui, de quelle façon est-elle fournie? Comment ça se passe avec les producteurs locaux? Nous retrouvons nos invités dans un instant.
France Bleu. France Bleu et M6 craquent pour le bon pain. La meilleure boulangerie de France finit sa visite en Bretagne avec France Bleu. Ce soir, à partir de 18h35 sur M6, découvrez la boulangerie qui accédera à la grande finale. Pour ne pas perdre une miette de la meilleure boulangerie de France sur M6, rendez-vous sur France Bleu et sur francebleu.fr.
Énergie, c'est le mini kiwi super vitaminé, idéal pour la rentrée. À emporter partout. En plus, il est trop mignon. Plus d'informations sur énergie.info ou sur Facebook.
Je sais pourquoi tu adores les super-héros, Arthur.
À ton avis?
Tu es comme eux, tu as des super-pouvoirs et c'est pour ça que tu es devenu champion du monde de bridge.
N'importe quoi, tout le monde peut jouer au bridge, il suffit d'essayer. Dans les clubs, tu t'amuses vraiment et tu rencontres des gens super cool, comme moi.
Arthur Boulin, 20 ans, est champion du monde de bridge. Et il a raison, le bridge, c'est pour tout le monde. Rejoignez la team de la Fédération Française de Bridge et trouvez un club près de chez vous sur ffbridge.fr. Licence offerte la première année. Bridge, sport de l'esprit, esprit ouvert.
La cantine scolaire aujourd'hui, comment cela se passe? Nous en parlons avec, pour la direction départementale de la cohésion sociale et protection des populations, Pascal Gilly Dunoyer, Martine Lambert. Nous avons également avec nous Louis Verduin, maraîcher. Et nous avions tout à l'heure Véronique, la cantinière de Champagnat, qui a pu nous expliquer comment elle travaillait devant ses fourneaux. Martine Lambert, donc vous nous avez expliqué tout à l'heure les différents points de contrôle que vous vérifiez quand vous partez en inspection dans ces cantines. Donc globalement, les choses ont bien progressé. On n'a pas de réels soucis d'hygiène ou autre dans nos cantines en Creuse.
Ça a énormément évolué parce qu'au fur et à mesure de mes contrôles, je demandais des remises aux normes des locaux, des équipements. Et pour donc j'adressais souvent les courriers au maire. De toute façon, j'adresse les courriers au maire pour une petite cantine scolaire. Et le maire pouvait demander, s'il le souhaitait, une subvention DETR, dotation des équipements du territoire ruraux, auprès des services de la préfecture. Et sachant que les travaux de remise aux normes peuvent être financés à 70%. Donc, ça aide quand même, il en reste moins à la charge de la commune. Et puis, je crois que j'ai réussi, à force d'insister, j'ai réussi à faire passer le message.
C'est diplomatique.
Oui, j'ai réussi à faire passer le message auprès des élus. Ouais. Et il y en a qui ont. Tout le monde a bien réagi, des fois un petit peu en grognant, mais ils ont quand même bien réagi.
Par rapport aux fournisseurs, est-ce que de nombreuses cantines travaille ou cherche à travailler avec des produits locaux aujourd'hui?
Ça se développe de plus en plus, oui. Ouais. Oui, je vois la petite commune où j'habite, ils essaient de trouver des producteurs, mais c'est pas toujours évident. Et puis bon, le producteur est quand même, les producteurs, en dehors bien sûr, pour tout ce qui est denrées animales ou d'origine animale, doivent être bien sûr déclarés auprès de nos services et posséder, s'ils n'ont pas d'agrément CE, posséder une dérogation à l'obligation d'agrément. N'importe qui peut pas fournir une cantine comme ça. Et on a quand même des petits points de contrôle à vérifier. Voilà.
Bon, je ne sais pas pourquoi on vous fait confiance, Martine, sur les vérifications. Pascal Gilly Dunoyer, on se rend compte là depuis 9h, la demande est là. L'offre, oui, mais pas suffisante. C'est ça, finalement.
Mais je dirais que la demande n'est pas suffisamment structurée pour pouvoir l'organiser, ce que disait Louis tout à l'heure. Et l'offre pourrait être là, mais elle n'est peut-être pas encore là, puisque la demande n'est pas structurée.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se met autour de la table?
Alors, il y a effectivement des incitations fortes à cette organisation, en particulier dans le cadre de ce qu'on appelle des projets alimentaires territoriaux, qui sont en lien avec le programme national de l'alimentation, et qui peuvent... Il y a des appels à projets qui sont financés donc par l'État, et une organisation locale peut être mise en place, proposée dans le cadre de ces programmes. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel la Creuse doit rebondir, en particulier dans le cadre du plan particulier pour la Creuse. Mmh. C'est un élément important. Donc c'est un élément aussi relativement important en termes de développement territorial, puisque là, on lie vraiment la santé avec des produits locaux, des produits de qualité, qui n'ont pas vécu dans des emballages, etc. Donc on a l'éducation. L'éducation des enfants, il y a un petit retour, je dirais, sur leur environnement. Mmh. Les produits, ils viennent, je dirais, des vaches qu'on voit dans les champs, des légumes qu'on voit dans les champs, voire des céréales qui sont aussi présentes sur le département. Il y a faire vivre certains agriculteurs. Alors, il ne faut pas penser que ce dispositif-là va solutionner tous les problèmes de l'agriculture.
Non, malheureusement.
Ça serait peut-être un petit peu trop simple. Mais pour certains agriculteurs, ça peut effectivement être tout à fait intéressant.
Il y a des producteurs en viande, en légumes, en maraîcher. Vous êtes peut-être pas très nombreux, Louis, en Creuse.
Non.
Ça pêche un peu, Pascal Gilly Dunoyer, de ce côté-là.
Alors, le maraîchage, Louis va peut-être pas me contredire, mais c'est quelque chose qui est quand même assez difficile, qui demande pas mal de main-d'œuvre. Par contre, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de grandes surfaces. Donc ça peut être intéressant. Il faut savoir aussi, par exemple, que la Creuse était un très gros producteur de pommes de terre il y a deux siècles. Donc c'était il y a quelques années déjà. Donc pourquoi pas revenir aussi sur cette production locale de pommes de terre. Le terrain manifestement s'y prête. Mais il faut que la demande soit structurée pour que des personnes...
Alors la demande structurée, comment ? Ça veut dire qu'il faut que les responsables de cantine, les maires des communes se mettent au point ?
Il faut qu'ils se mettent surtout autour de la table pour vraiment consolider leur demande, de quels produits ont-ils besoin, de quel volume ont-ils besoin, et il faut qu'il y ait une entente. Comme disait Louis tout à l'heure, on a des productions qui peuvent ne pas avoir poussé parce qu'il y a eu des aléas climatiques. Il faut une certaine souplesse, pouvoir aller ailleurs. Donc il faut que les gens aient une souplesse au niveau des menus.
Oui, c'est vraiment la cantinière qui doit s'adapter... Alors, proposition du producteur.
Aujourd'hui, souvent le gestionnaire de l'établissement intervient également, puisque c'est lui qui a le porte-monnaie en main. Et c'est parfois plus simple d'avoir des menus relativement types. On fait tel produit et on s'approvisionne auprès de centrales nationales de distribution parce qu'on aura toujours ces produits-là. Oui. Donc c'est quand même aussi relativement difficile d'avoir cette souplesse, de dire, il fait trop chaud, il fait trop froid, il a plu, les carottes sont plus disponibles, la salade, il y a un problème, donc je vais faire autre chose. Il faut qu'on ait... Et ça, la réglementation le permet.
Louis, vous souhaitez réagir ?
C'est le rêve que j'attends, là, que le cantinière s'adapte en fait aux productions. Vu mes expériences, je vois ça que comme ça et pas à l'envers, parce que les raisons pourquoi je travaille bien avec les 5 cantines que je fournis, c'est parce que c'est les cantinières qui s'adaptent vraiment.
Martine, globalement, elles sont prêtes, ces cantinières, à s'adapter ou non? C'est quand même compliqué à mettre en place.
Elles sont prêtes à s'adapter. Par contre, des fois, au niveau des locaux, quand on utilise des légumes qui sont terreux, parce que par rapport à ce qui sort des gros circuits de commercialisation, les produits, disons, locaux sont plus terreux. Donc, il faut que dans la cantine ou dans la façon de travailler, la cantinière s'organise à utiliser les zones qui sont attribués, disons, à la décontamination des légumes, où il faut qu'elle s'organise dans le temps, qu'elle commence par faire ce qui est le plus sale, éliminer les déchets, nettoyer, désinfecter, de façon à pas tout contaminer par la suite, quoi. Mais on peut très bien s'adapter, même si on n'a pas une légumerie au top, parce que dans les cantines, j'en ai quelques-unes qui ont des zones légumeries, où on fait vraiment les produits sales, le déboîtage aussi de certaines conserves. Après, c'est une question d'organisation de la cantinière. Voilà.
Le dossier du jour, avec granit et marbre mourillé, tout pour le cimetière. Fabricant depuis 1860, exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourillé.fr.
En conclusion pour aujourd'hui, Pascal Gilly Dunoyer, on peut faire mieux, mais il faut en parler.
Ah ben bien sûr qu'on peut faire mieux. On peut toujours faire mieux. Et surtout dans ce domaine-là, il y a une attente sociétale qui est très forte. Il faut vraiment qu'on rebondisse sur, je dirais, sur les événements du moment. Cette loi qui va arriver, le plan particulier pour la Creuse, l'attachement des, ben je dirais, de plus en plus grand des citoyens à la qualité de leur alimentation, et surtout l'information concernant leur alimentation. Il faut qu'ils reviennent un petit peu, je dirais, qu'ils remettent les pieds dans la terre pour savoir d'où viennent les produits et qu'ils les acceptent. On a parlé des légumes moches à un moment, des fruits moches, etc. Il y a cette revenir à la qualité des produits.
Martine Lambert, chef technicien responsable des inspections restauration collective, votre mot de la fin pour aujourd'hui.
Eh bien,
ça va barder si je trouve.
Non, quand non, il non, non, dessus, non. Dessus.
Moi je suis contente de l'évolution qu'a pris la restauration collective sur le département depuis 30 ans. Il y a vraiment une nette amélioration des conditions de travail du personnel, de la formation du personnel, des cantines, parce que... Et vraiment, les cantinières ont bien joué le jeu et elles sont responsables, vous l'avez vu déjà dans l'intervention de Véronique, hein, mais Véronique est un exemple, mais il y a plein de Véronique dans la Creuse au niveau des cantines, je peux vous le dire.
Ben c'est tant mieux. Louis Maraîcher, votre mot de la fin.
Une chose qu'on n'a pas tellement parlé encore, c'est ce qui compte surtout, c'est que c'est le bon bouffe à l'école pour les écoliers, pour qu'ils mangent des produits bien comme il faut, qu'ils ont produit en plus sur place. Au lieu d'ouvrir des boîtes, allez, va chercher un producteur et puis tenter de travailler avec des produits locaux. Voilà.
Tout simplement.
Voilà.
France Bleu Creuse, le dossier du jour, Josiane Perron.
Merci beaucoup à vous trois. Un coucou ou un salut cordial à Véronique, à la cantine de Champagnat. Merci de nous avoir rejoints pour ce dossier que vous pouvez bien évidemment retrouver sur francebleu.fr. Lundi, ce sera la rentrée radiophonique, bah oui, c'est temps quand même, de Pascal Tonnerre, président du réseau anti-arnaque. Une rentrée qui est caractérisée par le renouveau des offres de loterie et autres cadeaux dans la vente à distance. Et bien sûr, ce n'est pas forcément que du bonus pour nous. Prudence, nous en parlerons lundi.